Le journal de Nicolas Musi.
Bonjour, 160 supporters du HC Ajoie au Mélèze, idem pour les fans du HC La Chaux-de-Fonds à la Raiffeisen Arena. Les deux clubs se sont mis d'accord sur la vente de billets en secteur visiteur deux jours avant le début des barrages pour une place en National League. Plus de 200 classes d'école jurassiennes ont participé ce matin au cyberdéfi. Elles ont affronté d'autres élèves romands dans des challenges numériques. Nous avons passé la matinée dans l'école de Charmoy. L'équipe de Suisse poursuit sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 de football. Elle reçoit Israël ce soir à Genève pour son deuxième match de groupe, un adversaire que la Suisse n'a jamais battu en match officiel. Le soleil est bien présent dans le ciel de la région. Il va gentiment disparaître derrière les nuages en cours de l'après-midi. Température fraîche, 11 degrés maximum en plaine et 7 sur les hauteurs. Supporters ajoulots et chaux-de-fonniers devront se déplacer en effectif limité. Le parcage visiteur à Porrentruy a été réduit pour le derby en barrage de promotion-relégation de National League entre le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds. Il peut contenir normalement entre 250 et 300 supporters, mais le HCA et le HCC se sont entendus pour offrir dans leurs enceintes respectives le même nombre de places aux supporters adverses. Les explications de Kim Obelman, directeur administratif du HC Ajoie.
On a pour entrer un secteur visiteur qui est un peu plus grand, plus spacieux qu'à La Chaux-de-Fonds. À La Chaux-de-Fonds, il y a une capacité de 160 personnes. Et puis, par souci d'équité, on a décidé aussi de limiter donc, cette capacité d'accueil à la Raiffeisen Arena à 160 personnes aussi. Comme ça, on a le même nombre de supporters qui peut encourager son équipe lors des déplacements.
Est-ce que le contexte risqué de ce match entre supporters vous a aussi conforté dans l'idée de limiter le nombre de places ?
Absolument pas, non. Alors là, on parle vraiment d'équité vis-à-vis de nos supporters. Ils ne peuvent pas se déplacer à plus que 160, donc on ne voulait pas offrir cet avantage-là à notre adversaire. Et c'est uniquement ça. Donc notre dispositif de sécurité, il est en place. Il peut gérer sans aucun problème 250 spectateurs, visiteurs, qu'ils soient de La Chaux-de-Fonds, Berne ou Langnau. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Kim Obelman au téléphone de Jérémy Pignard. Les billets pour les déplacements au Mélèze ont déjà tous trouvé preneur. La billetterie pour les deux premiers matchs à Porrentruy ouvre ce mardi à 16h pour les non-abonnés. On évoquera plus en détail le dispositif de sécurité dans notre journal de 18h. Séance légère au menu du Parlement jurassien. Les députés se réunissent demain à Delémont pour traiter un ordre du jour de 18 points. Ils se prononceront notamment sur la motion de l'élu du centre Vincent Eschmann qui demande la mise en place du vote électronique dans le Jura. Le gouvernement appelle à approuver le texte, estimant que le système de sécurité est désormais garanti. Il sera également question d'une interpellation du socialiste Loïc Dobler sur l'hôpital du Jura et le financement du futur site de Delémont par des investisseurs privés, alors que l'établissement est une entité publique à 100% en main cantonale. Quant aux questions orales, elles sont à suivre en direct sur RFJ après 8h30. Les bureaux de vote pourraient fermer dans 3 des 4 villages de la commune de Valterbi. Le conseil général doit statuer ce soir sur un projet du conseil communal. L'exécutif souhaite que Corban, Montsevelier et Vermes ne disposent plus de bureaux de vote à partir du 1er juillet prochain. Seul Vic continuerait à bénéficier d'un tel service qui serait accessible pour l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal justifie la mesure par des raisons financières et d'efficacité des ressources humaines, François Comte.
L'exécutif de Valterbi relève que le vote à l'urne ne représente plus que 16% des suffrages exprimés en moyenne sur les 5 dernières années dans l'ensemble de la commune. La proportion tombe à 3,58% à Montsevelier, 2,44% à Corban, 2,05% à Vermes et 7,97% à Vic. Le conseil communal relève également que chaque local de vote nécessite la présence continue d'un membre du personnel administratif qui connaît bien les dispositions légales. Pour Corban, Montsevelier et Vermes, cela représente annuellement l'équivalent d'une semaine et demie de travail à temps complet, sans compter que le personnel qui travaille le dimanche est payé à 125%. Le conseil communal indique que les boîtes à lettres sécurisées installées dans les trois villages seront maintenues et que la dernière levée interviendra à 9h30 le dimanche. Il souligne aussi que Valterbi ne forme plus qu'une seule circonscription électorale et qu'une autre commune fusionnée, à savoir Courandelin, a a renoncé au maintien des locaux de vote à Velra et à Rebevelier.
Bohécourt continue son bonhomme de chemin. La commune ne veut toujours pas entendre parler de fusion avec sa voisine de Haute-Sorne. Par contre, elle vise à se développer au niveau démographique et économique. Le maire de Bohécourt, Thierry Bourcard, était l'invité de la chronique « Faut voir avec le maire » dans la matinale. Il a présenté un projet de plusieurs petits immeubles à l'entrée du village. Mais ce n'est pas le seul axe de développement pour Bohécourt qui doit toutefois composer avec des surfaces limitées. Thierry Bourcard.
On doit vraiment être vigilant parce que nous avons une nouvelle zone artisanale qui s'est créée l'année passée, direction Cépret. Ça a apporté pas mal de petits artisanats. Donc là, c'est en phase de finalisation. C'est un projet qui est porté par la bourgeoisie et il n'y a plus de place actuellement dans cette zone. On a aussi une entreprise importante de notre village qui va s'agrandir, qui va amener plus d'emplois et on devra finalement contrôler tout ça et suivre tout ça.
Si Bohécourt vise un développement harmonieux, il en va tout autrement pour Cépret et Montavon, deux hameaux qui font partie de la commune. Thierry Bourcard veut préserver ces endroits de calme et de verdure.
Dans ces deux hameaux, je dirais qu'on est plutôt dans la préservation du paysage, préservation du site. On a rénové Montavon avec l'ancienne législature. On va terminer de rénover Cépret. Donc là, on va plutôt préserver ces beaux petits sites plutôt que le développement actif.
Thierry Bourcard était l'invité de Michel Léoni dans la chronique « Faut voir avec le maire » ce matin. Retrouvez son entretien complet en vidéo sur rfj.ch. Les chiffres utilisés pour la péréquation financière intercantonale 2023 sont globalement corrects. C'est ce qu'indique le contrôle fédéral des finances dans un rapport publié ce matin. Même si ces enquêteurs ont relevé des oublis dans certains cantons, Zurich ou Genève par exemple. Mais ils sont sans effet sur le résultat de la répartition de l'argent, estime-t-il. Les explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Sept administrations fiscales cantonales ont été passées au peigne fin, dont la plus grande, Zurich, et une en Suisse romande à Genève. Constat du contrôle des finances, le système fonctionne bien, les offices fédéraux qui font les calculs font aussi bien leur travail. Dans les cantons, le contrôle de l'intégrité des données fournies est toutefois variable. C'est inhérent au fédéralisme et il n'y a pas de volonté d'uniformiser le système. Le contrôle des finances a tout de même trouvé pour 84 millions de francs d'erreurs, des montants fiscaux pas inclus dans les données transmises par les cantons. Est-ce grave ? Non, c'est moins de 1% de l'assiette fiscale et ça n'a aucun impact sur les résultats de la péréquation. Tout de même, le canton de Zurich est épinglé pour plusieurs centaines de dossiers. Petite réprimande aussi pour Genève, mais sans effet. Au final, les chiffres validés par le Conseil fédéral en fin d'année dernière sont corroborés par l'examen du contrôle des finances. La RPT est solide.
Des élèves se sont mesurés au cyberdéfi ce matin. Près de 600 classes romandes, dont un tiers de jurassiennes, se sont inscrites à cette compétition virtuelle organisée par le Centre Mythique Interjurassien. Les enfants étaient confrontés à des énigmes à résoudre par équipe avec des moyens numériques en fonction de leur niveau scolaire. À Charmoy, la classe de 7e année de Camille Surmont s'y est frottée.
Vous aurez un ordinateur par groupe. J'ai fait des groupes de 4. Venez chercher votre feuille où vous avez votre mot de passe. Vous n'oubliez pas.
Maëlle, est-ce que tu sais ce qui t'attend ce matin ?
Le cyberdéfi. En fait, c'est des épreuves en fait, qu'on a une feuille et puis on doit essayer de résoudre.
Tu as déjà fait ça les autres années ?
Oui.
Et c'était bien ?
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce cyberdéfi ? C'est de travailler avec l'ordinateur, c'est de travailler des énigmes, d'être dans une sorte de compétition ?
J'aime bien parce qu'on est par groupe et du coup, c'est un peu un esprit d'équipe. Puis j'aime bien aussi être sur les ordi des fois.
Allez, c'est parti mon kiki, code de l'équipe.
V, V, X, G, salut équipe 2. Salut Jonas, Théo, Léna. Votre équipe dispose de 60 minutes pour relever 3 défis. Bonne chance.
Camille Surmont, c'est pas si facile. Hein ?
Non, vraiment pas. Alors au niveau des consignes, c'est ça qui est dur, je trouve. Parce qu'ils lisent en vitesse, en diagonale. Puis ils lisent vraiment rapidement, puis pas efficacement, je trouve. Ils veulent vraiment presser les boutons, quoi.
Vous mettez voir tout ça ? Vous rigolez bien, mais qu'est-ce que vous devez faire ?
Apparemment, il faut écouter les poésies et puis après, il faudra mettre la bonne image sur le tableau.
Un reportage réalisé par Nancy Chapuis à l'école de Charmoy. Il y avait de l'animation hier au-dessus de nos têtes. Peu après son décollage de Zurich, un avion de la compagnie suisse a dû y retourner en raison de problèmes techniques. Mais pour parvenir à atterrir, l'engin a dû perdre du poids et a lâché du fioul en plein vol. L'appareil a effectué des boucles au-dessus de la Suisse pendant plusieurs dizaines de minutes, notamment dans la région de Bâle et d'Argovie et en Suisse centrale. Le pilote jurassien Claude Michler nous éclaire sur cette manœuvre.
Il y a évidemment des règles très strictes pour ça et en cas d'urgence uniquement. Sur certains appareils, donc principalement les longs courriers, on a justement cette grande marge entre le poids de décollage et d'atterrissage autorisé. Il y a un système qui permet de larguer du fioul ou plutôt de sprayer. C'est comme une espèce de robinet, une buse qu'on ouvre et on a évidemment une procédure stricte, c'est-à-dire une certaine vitesse à maintenir et une hauteur minimum.
Concrètement, on a dit qu'on a lâché du kérosène au-dessus de la tête des Suisses. Hein. Il n'a plus du kérosène, on peut dire ça comme ça ?
C'est un peu l'impression que ça donne, mais pas vraiment. Finalement, on peut déjà rassurer les gens, car c'est très rare. Et bien qu'il ne faille pas minimiser l'impact, c'est pourtant négligeable. Il faut savoir que le kérosène est très hautement volatile. Il passera pratiquement instantanément à l'état gazeux. Il s'agit donc, on pourrait dire, de vapeur de fioul comparable à ce qu'on peut respirer dans une station-service quand on va faire le plein de sa voiture.
Ça veut dire qu'au sol, on a pu sentir par endroits cette odeur de fioul ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est en sustentation dans l'air, on va dire, mais vraiment, dans une grande proportion de cas, ça n'atteindra jamais le sol.
Claude Michler était l'invité de Michel Léoni aujourd'hui dans la matinale. Le pilote jurassien précise encore que ce genre de manœuvre ne peut se faire que hors des zones de population dense et jamais au-dessus des points d'eau.
Et vous écoutez RFJ, les 12h27.
Sport. Confirmation attendue pour l'équipe de Suisse de football. Avec sa victoire 5-0 en Biélorussie samedi, la Nati reçoit Israël ce soir à Genève à 20h45 en match de qualification pour l'Euro 2024. La Suisse comptera notamment sur son capitaine Granit Xhaka. Le milieu de terrain va dépasser ce soir Alain Geiger avec 113 sélections et s'approcher du record absolu détenu par Heinz Hermann avec 118 caps. Un honneur qui ne laisse pas Granit Xhaka indifférent.
De la fierté, beaucoup de fierté, par rapport notamment à ceux qui pensent que je ne suis pas fier de porter le maillot de l'équipe de Suisse, mais avant tout pour ma famille, pour tous les entraîneurs, les coéquipiers que j'ai eus, qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Il y a encore 5 matchs. Cela étant, franchement, je ne regarde pas les records, mais au contraire, les matchs que nous avons à jouer avec l'encadrement pour les gagner, c'est ça le plus important et pas les records.
Il faudra avant tout se focaliser sur le match face à un adversaire que la Suisse n'a jamais battu en match officiel. Et le sélectionneur Murat Yakin se souvient qu'il n'a jamais été facile d'affronter Israël.
En football, tout va très vite. À l'époque, en Israël, j'ai dû sortir sur blessure. Nous avons malgré tout obtenu un match nul, ce qui était très important dans l'optique de la qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne. Mais tout ça, c'est très loin. Nous nous concentrons sur ce qui nous attend ce soir. Ça va être très difficile. Israël a une bonne équipe très créative qui joue un football offensif, mais nous avons les moyens de les contrecarrer. Tous nos joueurs sont aptes à jouer. Nous avons donc la possibilité de gagner notre deuxième match.
Des propos recueillis par notre confrère de OneFM, Blaise Bugil. Suisse-Israël, coup d'envoi ce soir à 20h45 à Genève. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée.